voix nue. Toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Ariel Dombasle. Ce soir, cet obscur objet du cinéma.
Actrice, un désir qui pour vous remonte à l'enfance, notamment lorsqu'au fond du jardin de la demeure familiale de Mexico, vous donniez la réplique à votre sœur, rejouant avec toute la fraîcheur et le sérieux que l'enfant met au jeu, les drames souterrains de l'étrange manège des adultes. Un peu comme Fanny et Alexandre dans le film de Bergman, dont la scène finale, un extrait du songe de Strindberg, nous rappelle que tout peut arriver, tout est possible et probable. Le temps et l'espace n'existent pas. Sur un fragile tissu de réalité, notre imagination tisse de nouveaux modèles. Bouleversé par les films de Buñuel que vous découvrez à l'adolescence, en même temps qu'un monde de résonance qui vous est familier, vous apparaissez pour la première fois sur un écran de cinéma en 1978 dans Perceval le Gallois d'Éric Rohmer, dont vous deviendrez l'une des muses les plus inspirantes. Bonsoir, Ariel Dombasle.
Bonsoir.
Pour débuter ces entretiens consacrés au cinéma, j'aimerais savoir quel est le film de Buñuel qui a été pour vous fondateur.
Sans doute Los de Abajo, où on voit un Mexique qui n'avait jamais été filmé avant. Et puis L'âge d'or, bien sûr. Ça, c'est Le chien andalou. On se dit, ah bon, le cinéma, ça peut être ça. Eh bien, si c'est ça, le cinéma, oh, quelle merveille. Heureusement que ça existe. La vie ne serait pas possible sans cette forme-là.
Et déjà, à l'adolescence, ça vous parlait?
Oh oui, oui, oui. Et je n'ai jamais douté que je serais sur les planches, que je chanterais, que je danserais et que je serais actrice. Je savais que c'était là, dans ces fictions-là, que j'allais être.
Justement, parlons-en. Quand vous êtes arrivée à Paris à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes inscrite à un cours de théâtre, au conservatoire?
Oui, au conservatoire de musique. Et dans un cours d'Andreas Voutsinas, qui était une sorte de merveilleux personnage, une sorte de gourou, qui était très à la mode à l'époque et qui avait la méthode Stanislavski, et notamment tous les exercices du miroir, pour avoir la première appréhension de ce que l'on est et de l'effet qu'on fait sur les autres, et de cette étrange violence qui est de tout à coup se mettre en lumière alors qu'on ne se connaît pas.
Et comment étiez-vous perçue à Paris? Est-ce que vous étiez encore l'étrangère, l'oiseau
exotique? Oh oui, tout à fait. Dans le cours aussi, j'étais toujours quelqu'un d'un peu à part et on se disait c'est une drôle de fille, peut-être pas si facile à cerner. Et voilà, un côté international, on ne savait pas trop, que je cachais aussi. Quand on me disait « mais vous avez un accent en français », je disais « oui, je suis suisse ». Parce que je n'avais pas envie de raconter le Mexique et toute cette immense, immense continent de mots, d'images, de sensations, de torrents, de passions que j'avais vécu. Voilà.
Comment s'est faite la rencontre avec Éric Rohmer?
Oh, très simplement, il y avait un élève qui a dit « ah, mais il y a un cinéaste qui est un très grand cinéaste de la Nouvelle Vague qui recherche une blanche fleur, c'est-à-dire pour incarner le premier roman d'amour de la littérature française de Chrétien de Troyes, donc sur la légende du roi Arthur, de la Table Ronde, du Graal. Et il fallait être blonde, savoir chanter et avoir les yeux bien fendus. » Rieur.
J'ai repéré cet oui. extrait qui est très très beau. Si vous voulez bien, je vous lis quelques phrases, parce que quel portrait quand même de Chrétien de Troyes. La demoiselle qui s'approchait était plus gracieuse, vive, élégante qu'épervier ou papegaie. On eût cru ses cheveux d'or fin qui flottaient sur ses épaules tant ils étaient blonds et luisants. Son front était haut, blanc et lisse, comme taillé de main d'homme dans le marbre ou l'ivoire ou un bois précieux. Large entre-œil, sourcils brunets, les yeux verts bien fendus et riants, elle avait le nez droit. Le blanc sur le vermeil éclairait son visage mieux que sinople sur argent. Pour en ravir le cœur des gens, Dieu avait fait d'elle la passe-merveille. Jamais Dieu n'en avait fait elle, plus jamais n'en devait créer.
C'est bien joli, oui. Non ? C'est tellement joli. La passe-merveille, je vais oublier ce... Mais c'était... Alors, quand on a abordé Chrétien de Troyes, évidemment, Romère, ça a duré pendant un an les auditions, parce qu'il fallait en effet chanter de la manière, enfin, la musique médiévale, Guillaume de Machaut, tout ce corpus musical très spécial. Et puis, il fallait apprendre les chansons de gestes, cette manière qu'avaient les gens, les mystères du Moyen-Âge. Et bon, avec Eric, on a tout de suite, tous les gens qui l'ont abordé, c'était un grand maître. On apprenait des milliers de choses avec lui. C'était des après-midi entiers d'études. Et moi-même, j'ai vraiment lu Marivaux et Musset grâce à Romère. J'ai redécouvert vraiment Molière. Et puis, je ne sais pas, l'architecture, le cubisme, enfin, on entrait dans des grandes thématiques culturelles, et c'était des grandes conversations étonnantes qui étaient aussi un éveil de l'esprit.
Mais vous parliez du travail sur le corps dans Perceval. En effet, il est très précis, très particulier, inspiré des représentations de l'époque, du Moyen-Âge. Je me souviens des personnages qui ont tous les coudes serrés au corps. Comment vous avez travaillé ça ?
Eh bien, on est allé à la Bibliothèque nationale et on nous faisait ouvrir les grands livres d'enluminure de l'époque. Mmh. Et la représentation du monde, le monde était plat, il n'était pas courbe à l'époque. La perspective n'était pas encore inventée, ni en peinture, ni en pensée. Et il fallait restituer toute cette gestuelle, cette représentation du monde. Donc c'était tout un apprentissage, c'était toute une matière stylistique à apprendre. Et puis évidemment, bon, le film, les gens se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et pour nous, aussi bien Fabrice Luchini que moi et tout ça, c'était assez pénalisant parce que les gens se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que ces acteurs archi-maniérés qui ne peuvent aller que dans du Romère ?»
Et vous étiez libre de vos gestes ou vous répétiez beaucoup ?
Comment ça se passait ? On répétait beaucoup. C'était vraiment une chorégraphie très précise. Et oui, c'était restituer vraiment les mystères du Moyen-Âge.
On a l'impression de voir s'animer les personnages d'une miniature.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu ça.
Oui. Et bon, Romère, quel être à part aussi, quel être de... pétri d'intelligence et d'observation, et un cinéaste très secret. J'ai aimé cette idée que c'est un des seuls cinéastes qui ne soit jamais entré dans le star system. Il est resté absolument singulier à l'intérieur de son esthétique, de sa morale, de son éthique, faire les films qu'il voulait, sans essayer ni de gagner de l'argent, ni d'être plus aimé, ni d'être pas de système de gloire, ni de voilà, c'était une école merveilleuse.
Ce qui n'est pas le cas de tous les cinéastes de la nouvelle vague.
Non, beaucoup se sont laissés entraîner par les sirènes.
Romère, vous le retrouvez en 79 au théâtre avec la mise en scène de la petite Catherine de Hellbronn, de Kleist. On y retrouve presque toute la troupe de Perceval, dont vous, bien sûr. Nous sommes en plein romantisme allemand et vous jouez le rôle de la terrible Cunégonde de Turneck.
Oui, c'était merveilleux. C'était vraiment mon premier rôle diabolique et de très, très grande. C'est le romantisme échevelé Kleist. Du coup, j'ai lu Goethe et j'ai lu Novalis et je me suis intéressée à la peinture, à Gustav Friedrich, à tout ce qui est le grand romantisme allemand. J'adore Kleist, c'est sublime. Et donc Cunégonde, oui, c'était un personnage tout en artifice qui cachait sa nature de dominatrice. C'était vraiment intéressant à jouer.
C'était la première fois que vous jouiez une femme cupide, cruelle.
Aux Amandiers, voilà, cupide, cruelle.
Mais c'est un personnage qui est particulier pour une actrice.
C'était tellement intéressant. Alors, elle devait sa taille de liane et sa beauté à un corset de fer fait d'acier suédois. Et puis, elle devait sa chevelure à du crin de filet en Autriche.
C'est un personnage double.
Plus, oui, tout à fait.
Et on vous voyait, d'ailleurs, je crois que c'était un peu inédit à l'époque, cette intrusion de procédés cinématographiques au théâtre. On vous voyait projeté en gros plan, chauve et denté, difforme, comme l'envers du décor du personnage que vous incarniez sur scène, très féminin.
Oui, c'était fantastique. On m'avait mis un crâne, donc chauve. Et puis même, on m'avait peint les dents en noir. Et puis j'étais un personnage tout crispé, etc. Ça, c'était la vérité. Et puis après, grâce à tous les superfuges, j'étais autre chose sur la scène. C'était vraiment formidable à jouer. Et un personnage très douloureux aussi, parce que ne s'acceptant pas et voulant absolument être maîtresse de l'amour qu'elle suscitait. Voilà. Et c'est étonnant, Kleist. Et la petite Catherine de Heilbronn était jouée par Pascal Augier.
Grande comédienne.
Oui.
Que vous connaissiez bien.
Oui, oui, on était très amis, bien sûr.
Vous avez reçu, je crois, une très jolie lettre de François Truffaut à
oui,
l'époque
absolument.
De ses représentations de Kleist.
Oui, oui,
vous
oui.
Vous souvenez de ce qu'il disait?
Oui. Non, je me souviens pas, mais...
Alors, en quelques mots, pardon. Chère mademoiselle Ariel, la voix, les mouvements, les gestes, les regards, j'ai tout admiré de votre création dans le spectacle Kleist. Aujourd'hui, c'est l'enthousiasme qui trace ses lignes. Je voulais vous dire que vous êtes bien, très bien, quelqu'un de rare et de beau. Et d'ailleurs, je suis certain que vous êtes heureuse de jouer cela. Ce bonheur est contagieux, votre François.
Oui, c'est vrai, ça m'a fait...
Un bel hommage.
Oui, ça m'a fait très très plaisir. Oui.
Revenons à Romère, que vous retrouvez pour trois autres films, dont Pauline à la plage en 1983, qui est aussi votre premier grand rôle au cinéma. Quel souvenir vous gardez de cette événement qu'a été Pauline à la plage? Je crois qu'il a remporté l'Ours d'argent à Berlin. C'est un film important, un beau film, et un film qui a été très bien reçu, contrairement
à Perceval.
À Perceval.
Oui, oui. Et puis alors, là, nous avons eu aussi beaucoup de succès en Amérique. Et ça m'a permis aussi tout cet appel de l'Amérique, tout à coup, où j'ai tourné pas mal de choses. Et c'est grâce à Pauline. Ben, Pauline, c'était tellement... gracieux, parce que c'est toujours cette observation des contradictions, de l'amour, des gens qui rêvent les choses, qui font des stratégies, et puis évidemment, ils sont victimes de leurs stratégies. Et bon, c'est ravissamment écrit. Et Romère, c'est difficile à jouer, parce que c'est très, très écrit. Et on a l'impression que ça coule de source, mais moi, j'entends les virgules. C'est vraiment très articulé.
On dit justement qu'il réécrivait aussi les dialogues à partir de...
De la syntaxe.
Oui, mais des personnages, des interprètes, oui, de leur personnalité.
Oui,
C'est le cas?
Oui, ça avait été écrit pour Brigitte Bardot, ce rôle. Et bon, je ne sais pas, je me souviens que, par exemple, Pascal Augier, à l'époque... Voilà, il avait cette intelligence de capter ce qui était vraiment signifiant d'une époque. Je me rappelle que Pascal, elle disait tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et donc, par exemple, il prenait ce petit fragment et il allait en truffer le texte déjà écrit pour justement vous mettre dans cette espèce de syntaxe qui semblait totalement singulière et qui fait que les gens avaient l'air d'inventer complètement ce qu'ils disaient.
Vous parliez tout à l'heure de sa personnalité complexe. Je crois qu'il a refusé souvent les prix, les cérémonies, notamment d'aller présenter la Marquise d'O au Festival de Cannes. Vous vous souvenez de ça? Et il justifie sa décision à l'époque d'une très belle lettre adressée au responsable du festival. Je trouve que cette lettre est un beau portrait de Romère. J'ai assez envie de vous demander de la lire, elle est très courte.
Mais je ne la connaissais même pas.
Alors, peut-être on pourrait la découvrir ensemble.
Oui. Si je dois au public une œuvre faite à son adresse, si j'admets volontiers que pour le prestige et le bien de la culture, sa présentation puisse être entourée de quelques pompes, je n'en prétends pas moins rester jalousement maître de ma personne privée. J'aurais trop chèrement payé le succès auquel j'ai accédé depuis peu, si ce devait être au prix de cette liberté que tant d'années de lutte dans l'ombre m'ont rendu plus cher que tout. Je ne suis plus d'âge à me guérir d'une timidité devant les foules que je vous laisse le droit d'appeler maladive.
Est-ce que ça lui ressemble ? Oui. Est-ce que vous le retrouvez ?
Oui, je le retrouve, parce que c'était un être de qui était vraiment au diapason de son rythme et de sa singularité la plus précieuse, et pas de compromis. Il y avait beaucoup d'actrices célèbres de l'époque qui rêvaient de tourner avec lui. Il aurait fait des films avec beaucoup plus d'argent. Et il n'a jamais voulu entrer dans ce qu'on appelle ce système, qui est en fait un système assez mortifère. Et il était le seul qui a lutté pour cette liberté qui est primordiale, qui est l'insolence du film d'auteur. Et c'est, je crois, la signature même de ce qu'il y a de plus beau dans le cinéma français. C'est cette liberté du film d'auteur, qui est un travail artisanal, qui est un travail avec soi et les amis, les gens que l'on estime et qui sont faits pour des raisons belles et nobles et fulgurantes, et non pas pour les mauvaises raisons de gloire, de tapage ou d'argent.
Un autre auteur a beaucoup compté pour vous, dont on pourrait dire sur ce point presque la même chose. Il s'agit d'Alain Robbe-Grillet.
Oui. Alain Robbe-Grillet, bon, c'est l'invention d'une écriture, c'est le nouveau roman. Et moi, j'ai été très, très heureuse de rencontrer ce personnage qui faisait un peu peur, parce qu'il avait cette espèce de rire incroyable. Et puis, il avait une telle assurance dans sa science et une telle maîtrise aussi de la langue et enfin de la littérature qu'il était impressionnant. Et son cinéma, j'ai aimé son cinéma. J'ai tourné trois films avec lui.
La belle captive.
La belle captive, Un bruit qui rend fou.
Vous chantez dans ces films
du Wagner. Oui, du Wagner. Je chante du Wagner accompagné par des sortes de sitars grecs. Et c'était le bateau fantôme. C'était très, très difficile et c'était du direct comme ça. C'est très romantique avec un bateau, le vent et tout ça. Et moi qui chante à tue-tête, c'était vraiment difficile.
Et vous chantiez en direct ?
Oui.
Ça n'a pas été fait en studio ?
Non. C'était plusieurs prises. C'était exténuant. Et je titubais littéralement. Oui. Et puis avec Alain, on a toujours eu un rapport très spécial parce que Alain n'aimait que les très, très jeunes filles. Et moi, quand je l'ai connu, j'avais 27 ans. Je n'étais plus dans l'ordre des toutes jeunes filles en fleurs. Alors avec lui, je jouais toujours un peu la petite fille, la Lolita. Parce que c'était comme ça notre rapport. Et puis, on était toujours... J'étais toujours en train de le contrarier. Je faisais la petite fille capricieuse dans la vie avec lui. C'est ça qu'il demandait, d'une certaine manière. C'est étrange. Mais j'ai joué un rôle très intéressant dans son dernier film, Gradiva. C'est Gradiva qui vous appelle. C'est donc tiré de ce roman de Jensen.
Cette nouvelle de Jensen qui est fabuleuse, oui.
Qui est fabuleuse et qui a été étudiée par Freud
Le délire et le rêve, je crois, dans la Gradiva.
Voilà, le délire et le rêve dans la Gradiva. La Gradiva, c'est donc l'étude de ce pied de femme à Pompéi qui est sur la pointe des pieds. Et moi, je suis toujours sur la pointe des pieds depuis l'enfance parce que toute ma famille est plus haute que moi et je voulais être aussi haute qu'eux. Et j'ai toujours été sur la pointe des pieds. Et là, c'était autour de ça et selon Freud, c'est presque un avant... Une sorte de signe d'une hystérie sensuelle. Et donc, cette Gradiva, comme ça, toujours sur la pointe des pieds, avec des voiles. Et j'ai aimé jouer ce rôle beaucoup. C'était un fantôme qui avait été modèle du peintre de la croix. Et c'était beau. C'est une imagerie fantastique. Et psychanalytique, Robbe-Grillet. C'est superbe.
Je me souviens de cette scène dans laquelle vous déplorez que la police des rêves ait censuré les rêves de certains rêveurs. Le dialogue est incroyable.
Ah, oui, la police des rêves.
J'aimerais qu'on l'entende, si vous voulez bien. C'est un dialogue qui m'a vraiment surpris. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps.
Ah bon ?
J'ai beaucoup aimé.
Ah oui.
On essaye ?
Oui. Ah, vous l'avez vu. Oui.
Bien sûr que je l'ai vu.
Ah bon.
Et j'ai repéré cette scène très singulière.
Mmh. Alors, je suis comédienne, enfin. Comédienne de rêve.
En quoi est-ce que ça consiste ?
Comme le nom l'indique, je joue dans le rêve des gens.
Comment est-ce possible ?
Mais d'une façon toute naturelle, le monde des rêves est aussi réel que celui de la vie éveillée. Le monde des rêves ressemble d'ailleurs beaucoup à l'autre, c'est son double exact, son jumeau. Il y a des personnages, des objets, des paroles, des peurs, des plaisirs, des drames, mais tout y est infiniment plus violent.
Les rêves érotiques ?
Tous les rêves sont érotiques. C'est ce qui est passionnant pour les comédiens.
J'imagine que le métier doit être difficile.
Oh, cela s'apprend. Il y a des écoles, des concours, des diplômes, et les non-professionnels sont vite éliminés.
Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles ?
Toutes sortes de choses. L'expression corporelle, le travail de la voix, la narratologie, la psychanalyse, le droit pénal, la peinture orientaliste, le principe de causalité, la contradiction comme moteur de l'histoire.
Pourquoi le droit pénal ?
Mais nous devons savoir exactement ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Les rêves sont étroitement surveillés par la police. Vous savez, par exemple, que ceux qui mettent en jeu les mineurs, les garçonnets ou adolescentes impubères sont strictement interdits. Oui, c'est dommage d'ailleurs. Je connaissais une ravissante petite fille qui voulait jouer dans un rêve sado-lesbien à gros budget. L'auteur était d'accord, les parents, les avocats aussi. C'est le producteur qui s'est montré intraitable, invoquant sa responsabilité morale, la protection de l'enfance, les risques sanitaires, je ne sais quoi encore. Enfin, la morale, il s'en battait l'œil des deux mains. En réalité, il avait peur pour ses sous. Ah, je trouve ça scandaleux.
Et le meurtre est-il autorisé ?
Fort heureusement, y compris le meurtre aggravé avec séquestration et torture. Il manquerait plus que ça qu'ils nous l'interdisent.
Mais ces rêves, vous les inventez pour les gens ?
Ah non, 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 pas du tout. Le public n'en voudrait pas. Il y a des écrivains spécialistes dans ce genre de récits. Les onirographes, comme on les appelle. D'ailleurs, ils gagnent leur vie confortablement.
En confidence, mademoiselle, vous avez joué quelquefois dans mes rêves ?
Mais oui, souvent. C'est même pour cette raison que vous m'avez reconnue si vite. La plante de mon pied redressée à la verticale. Vous vous souvenez ? J'avais complètement oublié ce texte qui est
elle
fabuleux.
Elle est incroyable, non ?
Incroyable.
Et je trouve que c'est incroyable aussi parce que ça parle très bien du lieu du fantasme chez Rob Grier qui est celui de toutes les libertés.
Oui, absolument. Heureusement, mais c'est une grande vérité.
Mais oui.
Alors, ce serait terrible s'il y avait une police des rêves. Alors là, vraiment, en effet, les gens se suicideraient en masse.
Et puis là, il parle bien sûr du fantasme, mais non pas du passage à l'acte. Et je trouve que la confusion de nos jours est très présente.
Bien sûr, bien
sûr. Très présente.
Ouais.
Je me disais que peut-être il était intéressant de rappeler ce mot d'ordre de Raoul Vanhoenen qui dit « Rien n'est sacré ». Tout peut se dire, j'ajouterais s'imaginer, et c'est peut-être ce qui fait le prix, à mon sens, du cinéma de Rob Grier.
C'est la liberté mise au poste de commande, l'imagination, la folle du logis qui est là et qui règne en maîtresse. Et quelle chance, quelle volupté, quelle liberté.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il intéresse davantage les artistes contemporains que les cinéastes, d'une certaine manière.
Oui, parce que c'est aussi un cinéma tellement spécial et qui est tellement singulier et qui est tellement d'avant-garde.
Et vous pensez que c'est dû à quoi ? Peut-être dû au fait que la narration n'est pas forcément le propos chez Rob Grier. Il ne tend pas vers une éventuelle vérité narrative.
Non. C'est un cinéma qui est ailleurs. Ce n'est pas un cinéma qui suit les arcanes de la psychologie normale. On est dans le symbolique, on est dans la gestuelle, on est dans le sacerdoce du désir et de la jouissance. Et tout est permis.
Alors c'est un peu hors format de nos jours.
Oui, c'est vraiment terriblement transgressif son cinéma. Et en même temps... ce n'est pas du cinéma fantastique, non plus. Ça serait permis si c'était labellisé cinéma fantastique. C'est un cinéma qui a une espèce de réalisme, une espèce de quotidienneté, et tout à coup, il y a ce glissement. Et c'est ça qui choque et qui fait frémir. Moi, j'ai vraiment le vertige de la liberté quand je suis sur les plateaux et que j'incarne des personnages qui vraiment sont loin de moi et que j'arrive à leur donner une vérité. J'ai une jubilation interne extraordinaire. C'est un moment de hors temps, hors du temps, hors du monde, de pure existence dans un autre être. C'est merveilleux.
Si vous voulez bien, demain, nous parlerons de Raoul Ruiz, avec qui vous avez aussi travaillé au long cours.
Oui.
Et puis surtout de votre travail en tant que réalisatrice, puisque vous êtes aussi l'auteur de 6 films de fiction et documentaires, dont Opium,
voilà,
qui est sorti en 2013, je crois.
Oui, est allé au Festival de Cannes et puis il est sorti dans un seul cinéma.
Je crois qu'il disait, Cocteau, ne soyez pas tenté d'aller trop au fond des choses, vous risquez d'y rester.
Oui, c'est tellement joli.
C'est joli, non?
Oui, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Et j'aime beaucoup Milan Kundera et j'ai eu la chance qu'il voit Opium et qu'il l'aime. Et ça a été pour moi tellement énorme qu'il me le dise. C'était très important.
Je vous remercie, Ariel Dombal, et j'espère vous retrouver demain soir. J'en suis sûr.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Philippe Bresson avec Ariel Dombal. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer, prise de son Raymond Albou. À voix nue, ce podcast et se réécoute sur franceculture.fr.